En octobre, nous avons parlé de l'auto-affirmation de la divinité du Christ, c'est-à-dire le Christ a lui-même affirmé qu'il était Dieu, et ses apôtres l'ont affirmé avec lui. Donc premier point, maintenant nous voyons qu'il a fait des miracles, et que ces miracles appuient la vérité de cette affirmation, et en décembre, nous verrons comme une épiphanie de cette divinité, tout à fait remarquable, dans la transfiguration, ce qui sera le terme donc de notre chemin, la vie du Christ, du baptême à la transfiguration, qui a été un peu bousculée, parce que j'ai été un peu perturbé pour des questions de santé l'année dernière. Donc on arrivera en décembre à la fin de cette série, et si Dieu veut, on commencera en janvier une série sur les fins dernières. Voilà, si on... Alors, donc je vous ai donné un résumé qui est un peu plus fourni que d'habitude. Vous avez un certain nombre de... Ça vous permet de retrouver les textes que je cite, et puis de retrouver le fil de l'exposé si jamais vous le perdez. Donc on va d'abord s'attacher dans les trois premiers points à un problème général, à une réflexion un peu générale sur le miracle. Et ensuite, dans les trois suivants, on va l'appliquer au Christ. Et la conclusion, c'est que ces miracles faits par le Christ montrent, j'emploie le terme exact Saint Thomas, je ne dis pas prouve, mais montrent suffisamment sa divinité. Donc vous voyez la démarche. Qu'est-ce que c'est que le miracle? Trois premiers points. Et trois points suivants. Le Christ a fait des miracles qui montrent la justesse de son affirmation concernant sa divinité. Donc d'abord j'ai mis un premier paragraphe sur la notion même de miracle, en commençant par une citation. Là on fait circuler une feuille pour que vous mettiez vos coordonnées, surtout électroniques, pour recevoir les annonces concernant le CFKT. Donc une citation du Concile Vatican I, qui est un concile très important, parce que l'abbé Berthaud, je ne sais pas si certains connaissent la congrégation dominicaine de Pont-Calais, c'est le fondateur. C'est un homme très sympathique que j'ai eu l'honneur de connaître, tout petit. C'est un petit chouan du Morbihan. Et alors il disait, c'est assez extraordinaire que, au fond, au XIXe siècle, pour la première fois, l'Église soit arrivée à définir dogmatiquement des vérités naturelles, comme l'existence de Dieu, ou plutôt le fait qu'elle est démontrable, la spiritualité de l'âme, et des choses comme ça. Et donc c'est un concile très important et très actuel, et une lecture du magistère, magistère c'est la fonction d'enseignement de l'Église, qui ferait abstraction de Vatican I, qui est un peu la lecture de la tendance progressiste ou moderniste, tombe facilement, non seulement dans la prétérition, c'est-à-dire dans le fait d'omettre volontairement quelque chose qui doit être dit, mais même dans l'hérésie, à mon avis. Parce que c'est vraiment la base, on est vraiment dans une époque, fidèle à cette ratio de Benoît, de Jean-Paul II l'a rappelé, où il est très important d'asseoir notre foi sur ses fondements de crédibilité. Alors, la notion de miracle, c'est précisément sur un texte de Vatican I qui est cité à nouveau par le catéchisme de l'Église catholique que nous commençons notre enquête. Donc vous lirez à tête reposée cette affirmation de Vatican I, et vous verrez que Vatican I nous indique que la foi, en fait, est quelque chose de spirituel qui vient par un acquiescement libre dans notre cœur et dans notre intelligence à la lumière de Dieu qui se révèle. Et donc le Saint-Esprit nous pousse intérieurement à recevoir la révélation que Dieu fait dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, par le Christ, par les apôtres. Mais il ajoute, alors ça c'est l'élément principal de la foi. La foi est la réception libre d'une lumière qui s'adresse à l'intelligence, on en a souvent parlé, et précisément cette lumière c'est le dévoilement du mystère de Dieu et aussi l'affirmation pour notre utilité d'un certain nombre de vérités naturelles, comme le décalogue, ou des choses comme ça. Mais après, ça vient de Dieu, et donc notre esprit s'ouvre à ça intérieurement sous la poussée du Saint-Esprit. Mais pour que ce soit raisonnable, alors là, Concile Vatican I cite un passage célèbre de l'épître aux Romains que le cardinal Ratzinger et donc Benoît XVI affectionnent, il faut que l'hommage de notre foi soit raisonnable, hein, logiken, c'est-à-dire un hommage spirituel, un hommage qui soit conforme au fait que l'homme a un esprit et que donc il ne donne pas sa foi, il ne donne pas son adhésion à quelque chose qui sera absurde, Et alors, pour en avoir le signe, si vous voulez, pour que notre foi s'appuie de façon externe sur une attestation disant, bah oui, c'est raisonnable de s'ouvrir à ce mystère de Dieu, il y a des signes. Vous voyez ? Et ces signes, donc, ce sont des preuves extérieures de la révélation. Et dans ces preuves, il y en a un grand nombre. On les a détaillées au RJC, donc cette université d'été que nous faisons tous les ans, qui est une expérience très enrichissante, et je vous incite fortement à y participer, parce qu'on a le temps de voir plus de choses que dans un café caté, bien sûr. Mais donc là, j'avais détaillé un peu l'ensemble des signes de crédibilité. Mais Vatican I détache surtout les miracles et la prophétie. Parce que c'est les plus percutants, c'est les plus spectaculaires. C'est pas forcément les plus profonds. Hein. Je crois que les signes de crédibilité les plus profonds, ce sont les notes de l'Église. J'ai fait une conférence justement sur la crédibilité de l'Église, ici, je crois, il y a quelques années, et en tout cas au RJC. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus fort, parce que ce sont des choses qui sont extérieures à notre conscience. Bon, l'Église se répand rapidement, elle engendre toutes sortes de biens, elle a une grande unité, elle est stable, etc. Donc ça, c'est des choses extérieures et vérifiables, mais en même temps, ça tient à la nature même de la religion catholique, oui. Et en fait, si nous étions bien fichus, si nous n'avions pas le péché originel, ce qui n'est pas le cas, vous savez, eh bien, ça devrait suffire. Et on verra en terminant que pour saint Thomas, il insiste beaucoup là-dessus, et il donne à plusieurs reprises dans ses œuvres, comme signe de la vérité du christianisme, la diffusion, la façon dont il s'est diffusé dans les premiers siècles. Et de fait, historiquement, c'est extrêmement fort. Mais de fait, on a le péché originel, on est quand même très limité aux choses sensibles, et donc il nous est bon d'être aidé par des choses encore plus percutantes, qui sont extérieures à notre conscience, bien sûr, la prophétie et le miracle, mais qui sont aussi un peu annexes par rapport à la religion. Le miracle est important, on va voir pourquoi, mais enfin c'est pas l'essence de la religion. L'essence de la religion, c'est la Trinité, l'incarnation. Donc c'est assez curieux qu'on ait besoin de ces choses-là, mais de fait on en a besoin, et Dieu nous les a données. Alors, l'affirmation de Vatican I, c'est que non seulement on a le Saint-Esprit qui nous pousse dans notre cœur à adhérer à la foi, mais on a des preuves extérieures de la foi. Et donc, déjà, juste après cette affirmation, on peut déjà, en première approximation, à partir de ce texte, voir que le miracle est un fait divin. Ça, c'est l'aspect factuel, si vous voulez, il faut constater un fait. C'est pour ça que l'histoire est très importante. Moi, je dis très souvent que dans la conquête de la liberté, par rapport à la pensée unique et par rapport à la pression hédoniste de la postmodernité et de tout le bazar dans lequel nous vivons, la première conquête, une des premières conquêtes à faire, c'est la liberté historique. C'est dire connaître l'histoire. Si on ne connaît pas les faits de ce qui a eu lieu, on est handicapé. Donc il y a un fait divin, bon, mais c'est un fait quand même, qui provoque l'étonnement. C'est quelque chose, on le voit dans le texte de Vatican I, hein, c'est des choses qui sont impressionnantes. Le miracle, c'est spectaculaire, on le voit dans l'Évangile, on le voit quand on peut y assister à un miracle, ou quand on voit la constatation d'un miracle à Lourdes ou ailleurs, ça vous remue parce que c'est en dehors des voies habituelles. Donc ça, c'est l'aspect psychologique, ça suscite l'admiration. Donc c'est l'étymologie du miracle, hein, mirabilé, ça vient d'admirer, donc c'est ce qui provoque l'étonnement, hein, donc aspect psychologique. Et puis, c'est pas tout, ça c'est un fait qui provoque l'étonnement, mais qui pointe dans une direction. Ça c'est très important, l'aspect sémiologique, si vous voulez, séméion, ça veut dire le signe en grec, le miracle ça indique quelque chose. Et ça c'est capital pour le discernement du miracle. Donc voilà en gros, en première approximation, ce qu'on peut qualifier de miracle, quelque chose qui est factuel, qui est étonnant et qui indique quelque chose, qui pointe, qui a un sens. Alors maintenant, on arrive à une définition plus précise, que je donne juste après. Le miracle, c'est quelque chose qui est perceptible par les sens. Ça, c'est un point tout à fait capital, qui distingue le miracle d'autres choses plus importantes, mais moins visibles, comme la création. Je parle de la création, quand Dieu a fait le ciel et la terre, c'est quelque chose de magnifique, qui provoque notre contemplation, mais ça ne nous est pas accessible. Hein, parce que on ne pouvait pas se trouver par définition un instant même où Dieu commençait à nous faire exister ou à créer le monde, ou les anges. Bon, donc ça c'est un fait remarquable mais pas sensible. Et de même quand nous passons en état de grâce, quand nous sommes baptisés, quand nous retrouvons la grâce dans la confession, c'est plus important que le Big Bang, que la création du monde et que c'est sa manifestation physique dans peut-être le Big Bang ou des choses comme ça. Donc c'est plus important, mais c'est moins visible. Donc c'est pas un miracle. Oui. Ça c'est très important, et pourtant c'est plus important, mais c'est moins visible. Hein. Le miracle c'est un fait perceptible au sens. Donc premier point. Et deuxièmement, c'est un fait que Dieu seul peut produire. C'est-à-dire il faut bien distinguer le miracle de ce qui est inexplicable naturellement, dans l'état actuel de nos connaissances, ou bien des prodiges angéliques ou des prestiges démoniaques. C'est-à-dire qu'il y a, une zone, nous connaissons quelques causes et quelques natures sensibles, pas énormément à vrai dire, hein. Saint Thomas est assez pessimiste, hein. C'est pas qu'il n'est pas l'esprit scientifique, mais il dit que c'est à peine si nous connaissons la nature de l'abeille. Ouais, on connaît quelques trucs, on connaît quelques lois générales, quelques rapports entre les mesures en mathématiques, entre les qualités en chimie, entre les ce qu'on appelle les interactions, les forces, les champs en physique, etc. Mais enfin, par rapport à la profondeur du réel, ça reste quand même assez court. Donc il y a des tas de choses qu'on ignore. Et ce n'est pas forcément des choses qui sont en dehors de la nature. Et des choses qu'on ignore, bon ben, certains peuvent les connaître par transmission, parce qu'ils les ont découvert pratiquement. Il y a des choses un peu bizarres, des capacités naturelles, des dons naturels que certaines personnes ont, ce n'est pas forcément des miracles. Hein. Et les anges, évidemment, sont mieux documentés que nous pour ce qui concerne leur mission sur le fonctionnement de la création. Donc il peut y avoir des prestiges, des prodiges angéliques. Les anges peuvent intervenir dans le cosmos sur des éléments de la nature que nous ignorons, et en particulier les démons. Hein, donc on appelle ça plutôt des prestiges quand c'est les démons. Mais... enfin, c'est des trucs qui peuvent être produits par quelqu'un d'autre que par Dieu. Alors que le miracle, c'est Dieu seul qui peut le produire. Et c'est ça qui fait qu'il y a une admiration. On va le redire tout de suite. Alors comment Dieu produit-il cet effet sensible au sens? Il le produit en survolant les causes secondes. Oui. Dieu a fait l'univers avec une cohérence absolument merveilleuse. Hein. Nous avons, j'ai dit qu'on ne connaissait pas grand-chose, mais enfin, quand même... Aujourd'hui, on connaît tellement de choses qu'aucun homme, il n'y a plus de piste de la Mirandole. Hein. Aucun homme ne peut accumuler l'ensemble du savoir humain, même s'il est très bon en informatique. Hein. Donc, c'est comme ça, même s'il y a toutes les banques de données. On connaît beaucoup de choses, et ça, tout ce qu'on connaît montre l'ordre. Je lisais récemment un article sur l'évolution, et c'est vrai que, les critiques des théories actuelles de l'évolution, et c'est vrai qu'un des intervenants fait remarquer la splendeur de la... des systèmes de montage de l'être vivant, enfin c'est hallucinant quoi, c'est hallucinant. Je me souviens de discussions que j'avais avec, autrefois on avait un des tout-bivola, heureusement les religieux on a souvent des généralistes qui nous soignent gratuitement, c'est bien parce que comme on n'est pas remboursé là-dessus, au moins avant 65 ans, c'est utile. Et donc dans les tout-bivs qui nous soignaient gratuitement, j'avais un qui était d'origine russe, un surdoué mais un peu cinglé, un peu tout à fait cinglé d'ailleurs. Mais sympa quoi, gros, dès qu'on le voyait on était rassuré parce qu'il était tellement sûr de lui, il dégageait une telle paranoïa de certitude que ça se communique à vous, quoi. Mais bon, et moi je l'aimais bien ce gars-là. Et alors il était agnostique. Et on parlait tout le temps de Dieu avec lui, quoi. Je me souviens, il faisait des dessins sur les amibes, les machins, qu'à la fin il aimait mon père. Mais le biologiste qui termine sa vie sans croire en Dieu, ben il a rien compris, hein. Il a pas compris, voilà. C'est amusant de la part de l'agnostique. Bon, alors donc il y a quand même un ordre admirable, mais évidemment on sait pas tout. Et cet ordre justement signifie que Dieu agit avec la consistance des natures. Vous voyez, ce qui est très beau dans un des articles que je lisais sur ces critiques de la théorie de l'évolution, c'est qu'il montre qu'il y a une espèce de stabilité incroyable des espèces animales. Et le fonctionnement d'une espèce, c'est quand même quelque chose d'abyssal, quoi. Donc Dieu, vous voyez, passe par des natures stables, avec des lois stables. Vous voyez, et si vous connaissez un peu la physique fondamentale ou l'astrophysique, même les plus rationalistes sont obligés de se dire, mais enfin, c'est quand même incroyable qu'on arrive à expliquer tellement de choses par si peu de signes, par exemple, dans le langage symbolique de la physique mathématisée, qui ne dit pas tout, je suis d'accord, mais qui dit quand même quelque chose. Hein, c'est quand même invraisemblable. Donc vous voyez, une stabilité. Et c'est que dans cet univers qui admet la consistance des natures et la stabilité des lois que le miracle signifie quelque chose. Parce que Dieu produit un effet, mais il produit en passant par-dessus le cours ordinaire de ces natures. Donc ça suppose, pour que ce soit étonnant, qu'on sache qu'il y a des natures stables. Donc le miracle, en fait, est probant dans l'ambiance du monothéisme. Ça, c'est un point tout à fait capital. Certaines personnes s'imaginent que le miracle sert à prouver Dieu. Alors, pour prouver Dieu, il faut lire la thèse que je vais publier bientôt chez Brun. Là, en principe, il m'a annoncé pour décembre, ou des bouquins plus faciles peut-être, de Clavier et d'autres, bon, sur les preuves naturelles de l'existence de Dieu. Mais pour prouver Dieu, c'est pas le miracle qui prouve Dieu. Le miracle nous indique la direction où il a parlé, ce qui est très tout à fait différent. Donc, en fait, si justement le miracle intervient et a une valeur probante, c'est qu'il est étonnant, parce qu'habituellement on sait que bon, ben, la vigne elle pousse et elle fait, sera un certain vin plus ou moins bon, s'il y a du soleil, etc. Il y a des tas de causes qu'on connaît, avec l'art, avec la science, avec différents niveaux de connaissance, l'expérience, l'art, la science, enfin, etc. C'est très passionnant de voir tous les niveaux de connaissance qui sont tous très différents et qui se complètent. Mais et là-dedans, si tout d'un coup, bon, quelque chose qui est de la flotte au lieu de passer par toute la terre, etc., les plantes, la germination, le cep, le tout, tout d'un coup ça se retrouve en l'espace d'une microseconde à être du vin et meilleur que tous les Bordeaux de la planète, c'est quand même intéressant, quoi. C'est étonnant. Et pourquoi on est étonné? On est étonné par le même principe qui fait que les êtres normaux s'étonnent. Le moderne ne s'étonne plus rien, ce qui prouve qu'il est un sous-homme. Un sous-homme qui tend vers l'état embryonnaire et l'état gélatineux du gars qui... Rien ne l'étonne, parce qu'il est nul, quoi. Rien ne l'étonne, le lever du soleil, les protons, les quarks, tout ça. Rien ne l'étonne, il est là à surfer sur son informatique. Rien ne l'étonne parce que c'est un con. À mon avis, c'est ça, quoi. Parce qu'il vit tout le temps la surface, vous voyez, avec uniquement des accidents très, très superficiels. Mais justement, un jour, il y a l'un d'entre vous qui n'est pas là, donc je peux le dire, qui m'a dit, mais c'est quand même incroyable que les constantes de l'univers soient toutes si précises. Et c'est vrai que si elles n'étaient pas exactement les grandes constantes de l'univers, qui rythment, si vous voulez, les grandes influences des différents, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, etc., elles sont à un niveau de précision tel que cette énorme construction, ce super Lego, mais c'était une mauvaise image, quel monde a pu finalement produire Mozart et Aristote, quoi. Et vous? C'est merveilleux, c'est clair. Donc vous voyez, il y a des natures, mais Dieu peut passer par-dessus ces natures, vous voyez. Et c'est là où il faut rentrer dans le chou des rationalistes et surtout des philosophes dits des Lumières, qui ont éteint toutes les lumières que nous avions, une partie des lumières que nous avions, parce qu'ils trouvent que c'est ridicule. Et là, on n'a pas le temps de faire toute la défense apologétique du miracle, mais elle suppose une bonne dose de raison, vous voyez. C'est-à-dire que si un Dieu distinct du monde qu'il a créé, qui a fait des natures stables qu'il gouverne habituellement par leur providence, il peut, passer par-dessus l'ordre régulier de ces natures pour produire directement les faits. Et à ce moment-là, on est encore plus étonné, parce que de même que celui qui ignore les lois de la mécanique céleste et qui n'a pas fait les calculs, quand il voit le soleil qui devient noir, il est étonné parce qu'il ne se rend pas compte qu'on est au moment de l'éclipse, alors que le savant, lui, il n'est pas étonné parce qu'il connaît la cause. On est étonné quand on voit un effet qu'on ne sait pas la cause. Et l'étonnement est la racine, l'admiration de toute science, de toute recherche. C'est pourquoi, d'ailleurs, tous ces crétins qui ne s'étonnent de rien ne trouvent jamais rien. Les savants, c'est toujours des planeurs qui sont toujours à... Normalement, au moins, ils planent au moins dans un domaine. Ils trouvent joli la petite abeille qui descend sur la petite fleur, je ne sais pas quoi, ou un machin qu'ils ont trouvé dans leur labo. Mais ils s'étonnent de quelque chose, sinon ils ne trouveraient jamais rien. Parce que de l'uniformité, rien ne sort. Bon, donc on s'étonne parce qu'on voit les faits, on ne connaît pas la cause. Et saint Thomas nous dit que Dieu, dans sa nature, ce qu'il est, c'est la cause souverainement cachée. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous avez découvert la cause de l'éclipse, c'est le soleil que vous connaissez qui arrive là. Bon, le soleil, on ne connaît pas tous les détails, mais on connaît quand même maintenant assez bien, assez précisément, la composition chimique, physique, les réactions, sa dimension, comment ça se passe, quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il va s'arrêter. Bon, donc le soleil, c'est un copain, quoi. Moi, si on a de l'ambre solaire, normalement, c'est plutôt... c'est sympathique. D'ailleurs, quand il est là, on voit beaucoup mieux, quoi. Il y a moins de disputes, ça dépend. Mais bon, voilà. Donc, tandis que le Dieu, on sait que Dieu est nécessaire. Dieu était quelqu'un d'irritant, profondément irritant, parce que il est nécessaire pour expliquer le monde, mais il est le point d'interrogation. Qu'est-il? Il y a bien un être infini qui explique le monde, mais sur lui, je ne sais rien dans son essence, vous voyez. Donc, on est en face. C'est pour ça que saint Thomas dit le miracle est plein d'admiration. Parce qu'il y a quelque chose, et c'est comme si vous voulez, s'il y avait, comme dans les BD, à un moment donné, il y avait des trous dans le continuum de l'espace-temps par lequel on tombait, qui ont tombé dans un univers parallèle. Enfin, maintenant, si je dois être dépassé d'au moins 15 années-lumière de BD, certaines BD qui me sont tombées sous la main, c'est ça, le trou dans le continuum de l'espace-temps. Bon, c'est du délire absolu, mais c'est marrant, quoi. Et alors là, c'est un trou dans le continuum des causes secondes. Il y a les natures, et puis top, en dessous des natures, il y a Dieu, forcément, sinon on ne serait pas là. Il est la cause cachée de tout l'être, mais justement, il affleure. Et c'est pourquoi dans le miracle, il y a un effet d'effroi, vous voyez. Saint Pierre voit le Christ qui ramasse tous les poissons qu'il a cherchés toute la nuit. Il tombe à genoux, il est effrayé, quoi. Vous voyez, cette dimension de l'effroi, parce qu'il est au contact du divin. Et c'est très important. L'occidental a tort de ne pas s'effrayer, vous voyez, parce que c'est vrai que Dieu est effrayant. Sous la feuille, il est inconnu, quoi. Ça, c'est présent dans l'islam, c'est présent aussi dans le judaïsme, c'est présent dans pas mal de religions. Et dans le catholicisme gélatineux, ça y est plus. Hein, mais c'est dommage, parce que du coup, c'est faux. Il y a une dimension d'effroi, de grandeur, qui est traduite dans la liturgie par l'espace sacré de la liturgie, des attitudes, etc. Il y a aussi l'intimité par l'incarnation, mais il faut les deux éléments. Bon, donc vous voyez, voilà, le miracle, c'est comme ça. Donc il y a un étonnement, et cet étonnement est possible dans l'univers du monothéisme. C'est-à-dire que le miracle du Christ vont être probants, parce que le Christ vient dans un contexte monothéiste. Il vient dans une religion où il y a eu des martyrs du monothéisme, qui est donc la survie du monothéisme d'un peuple juif est un miracle moral. Il vient à un moment donné où il y a eu Aristote et Platon et tout le génie occidental qui commence à dégager l'importance de la pensée de l'être, la philosophie de l'être, et donc de Dieu qui a fait l'être, par rapport, si vous voulez, à l'extrême-orient qui reste englué dans la confusion entre Dieu et l'univers. Hein. Et il vient dans une ambiance, si vous voulez, religieuse, politique, éthique, philosophique, qui précisément met en valeur de grandes choses tout à fait vraies, qui vont faire que les hommes vont se dire, bon, si, que Dieu en effet peut passer par-dessus cet ensemble de causes, mais qui existe. Pour un animiste, il n'y a pas de miracle, ou tout est un miracle, vous voyez. Parce que si vous avez raté votre pêche, c'est que vous n'avez pas fait un sacrifice au Dieu de la pêche, au Dieu des poissons, ou au Dieu de ceci, ou que vous n'avez pas tué votre voisin qui vous avait jeté un sort, alors il faut le tuer pour en dégoûter. Tout ce que vous dites, c'est des trucs, je ne suis pas loin de la vérité, je suis même dedans dans certains cas. Vous savez, c'est pas assez très joli vu de loin, hein, la sorcellerie, tout ça. Mais quand vous êtes dedans, je peux vous dire que c'est pas si joli que ça. Donc tout est expliqué par des esprits, par des causes, dans l'animisme et dans le polythéisme. Si vous lisez l'Iliade, comme vous l'avez fait, bien sûr, tous, vous allez le faire, qui est la source de la pensée européenne, enfin avec Virgile, Homère, il faut quand même au moins liser deux, trois pages, quoi. Évidemment, dans le texte français, bien sûr. Mais si vous êtes un peu grec avec la traduction en face, mais quand vous apercevez qu'il y a très souvent, c'est magnifique, c'est un texte, c'est quand on lit ça, moi, vous aurez été assis quand vous lisez d'une beauté, c'est vraiment la beauté grecque, quoi, c'est lumineux, quoi, c'est comme la Grèce, c'est beau, quoi. C'est beau, quoi. On comprend que la pensée humaine soit dégagée là. Mais alors, il y a des types qui sont en ligne, ils n'arrêtent pas de se battre, d'ailleurs, c'est la valeur personnelle, hein, bon. Mais c'est assez sanguinaire aussi, bon. Mais alors, il y a souvent, tu vois, qui gagne, c'est parce qu'il y a un dieu derrière, il y a Athéna qui vient, psh, un nuage, psh, le gars voit plus rien, bon. Le gars tape à côté, etc. Et à chaque fois qu'il y a un truc un peu expliqué, ça, qu'il y a des dieux, puis après les dieux se mettent pouf, ils se cognent dessus, ils se battent, parce que les uns sont pour les Troyens, les autres, bon. Et c'est comme ça des causes qui interviennent. Et alors, bon, le polythéisme, qu'est-ce que vous voulez, le miracle, il y en a trop, quoi. Donc, où commence la raison naturelle, où intervient le miracle, on ne sait plus. Vous voyez ? Et c'est pourquoi Aristote, au fond, et Socrate, je crois, a eu des ennuis, parce qu'il a commencé à dégager la pensée de son imbrication mythico-religieuse. Et donc on lui a reproché, on a senti qu'il faisait ça. Il n'est pas mort martyr de ça, il est mort martyr de la justice. Enfin, la réalité, c'est ça. Bon, donc vous voyez, il faut qu'on soit dégagé, qu'il y ait une certaine autonomie de la raison qui peut constater l'existence de Dieu, l'existence de nature et donc des exceptions. Donc voilà la mise en place du miracle. Alors, donc je saute, il y a des choses écrites en plus petit que vous pourrez lire. Quelle est il y a différents types selon la façon où le miracle se produit. J'ai donné quelques exemples. Alors, quelle est la finalité du miracle? Alors, il y en a deux, hein, les deux paragraphes de mon grand 2. Il y en a une qui est tout à fait principale, et quand j'ai découvert ça, ça m'a tout à fait... ça m'a fait plaisir, parce que la finalité du miracle, c'est d'attester la vérité d'une révélation. Et le miracle pointe vers la vérité. Vous voyez, c'est pas de faire abracadabra, je suis plus fort que toi, et claque, un coup de baguette magique, toute allusion à des personnages... littéraire actuel étant parfaitement volontaire. Et alors, ben, tout ça, c'est très mignon, mais c'est pas le but, c'est pas d'éprouver un pouvoir ou de se sortir c'est pas de se sortir d'un problème. Selon le Christ aurait transformé les pierres seraient fendues là, du désert de Jabal Karamtal où il se trouvait en croissant croustillant. Il l'a pas fait. C'est pas pour se sortir du truc. Il avait faim, 40 jours sans manger, même s'il buvait un peu, je sais pas. Bon, vous voyez, donc c'est pas le but, c'est d'attester une vérité. Et c'est attester la vérité d'une révélation. Parce que par définition, la révélation va nous donner un corps de doctrine dont le noyau dur est au-delà de l'esprit humain, dans ses capacités naturelles. Pas absolument, mais dans ses capacités naturelles. La Trinité, l'incarnation. Donc, pour pouvoir accéder à ça, eh bien, il faut un véhicule, vous voyez. Il faut que nous soyons sûrs que le témoin qui nous dit « Dieu est Trinité » ou « Je suis Dieu, moi-même, comme le Christ », eh bien, il est des lettres de créance. Et pour saint Thomas, le miracle, c'est le sceau divin apposé à la lettre de la révélation. Oui, Dieu écrit la révélation dans l'Ancien et le Nouveau Testament et puis dans la tradition orale des prophètes et surtout des apôtres. Dieu, c'est une lettre, ça. Et puis, le sceau qui montre que ça vient de Dieu, c'est les miracles. Mais c'est l'image employée par saint Thomas. Donc, attester, c'est la confirmature d'une révélation. Et saint Thomas a une très belle réflexion là-dessus, qui va, avec 5 siècles d'avance, contre M. Voltaire, Bell, Renan et compagnie, tous ces gars-là qui nous disent le miracle est impossible et il est même ridicule. Je vous excuse, excusez-moi du peu, il est ridicule pour ce monsieur. Le miracle est ridicule. C'est le grand thème fondamental de l'anti-apologétique des Lumières qui s'est répercuté, qui est également repris par toute une partie du rationalisme protestant du 19e et du moderniste et du néo-moderniste dit catholique, ou protestant aussi, mais enfin catholique pour nous, actuellement. C'est-à-dire que pour ces gens-là, quand vous lisez un texte, s'il y a un miracle, vous barrez. Parce que c'est interpolé, quoi. Donc de l'évangile, il ne reste pas grand-chose, hein, je peux vous dire. Dès qu'il y a quelque chose de miraculeux, c'est impossible, donc c'est faux. Donc c'est une imagination de la communauté primitive. Et là, c'est vraiment un postulat tout à fait anti-scientifique et anti-métaphysique. Fondamentalement anti-métaphysique. Parce que, dans le passage que je vous ai cité de saint Thomas, je vous ai cité un passage d'un très beau livre qui est maintenant en traduction française en 4 tomes, hein, qui a été bien traduit avec des notes, La Somme contre les gentils. Donc c'est un très beau livre écrit pour des prédicateurs catholiques qui ont affaire à des musulmans et à des juifs principalement, aussi à d'autres, mais principalement à ceux qui reconnaissent la providence et qui prient Dieu. Donc vous voyez, c'est un livre très actuel. Et il a mis beaucoup de son cœur dans ce livre, c'est un livre où il y a de très belles choses, c'est plus littéraire que la Somme, plus facile à lire finalement. Alors il est en traduction française. Alors il dit, bon, saint Thomas voit l'univers comme quelque chose d'univers corporel, hein. Je laisse de côté les anges, qui ont une finalité propre de louer Dieu, et une finalité un peu annexe qui est d'aider l'homme dans sa finalité à lui. Bon. Mais prenons les corps. Ben, l'ensemble des corps, pour saint Thomas, est ordonné à la nature spirituelle. Et là, il s'agit de l'homme. L'ensemble des corps, et il dit même ailleurs, à un autre passage, pas loin de celui que je vous ai cité, que l'ensemble des mutations, des changements substantiels ou accidentels qui se produisent dans les corps ont pour but l'âme de l'homme. Vous voyez, enfoncer les évolutionnistes, hein. Parce que lui, il ne se hasarde pas à des théories scientifiques dont il serait d'ailleurs incapable, mais qu'on trouvait ou insuffisamment appuyé, il donne un fondement métaphysique extrêmement important à l'ordination des choses vis-à-vis de ce qui est au sommet des corps, l'âme de l'homme qui est incarnée dans un corps. Alors si toutes les créatures corporelles ont pour but la nature spirituelle, et que c'est sa fin, et que si la fin de la nature spirituelle c'est de connaître Dieu, ça c'est extrêmement important aussi, hein. Et se connaître Dieu. Quand saint Thomas réfléchit en disant il y a une loi naturelle, vous savez, c'est un thème sur lequel le pape aime à revenir. Il y a eu un colloque là-dessus, il va y avoir des symposiums là-dessus qui sont au Vatican avec des spécialistes. Et la commission théologique va traiter ce thème-là, la loi naturelle, quand c'est son prochain thème. Et donc, dans la loi naturelle, quand saint Thomas dit qu'est-ce qu'il y a dans la loi naturelle ? Alors, il regarde fondamentalement les grandes lignes, si vous voulez. Donc il dit, ben, pour tout être, exister, conserver son être, si c'est un vivant, se reproduire, et si c'est un homme intelligent, vivre en société et chercher la vérité sur Dieu. C'est les 4 points fondamentaux qui donnent comme le disque dur, si vous voulez, de la loi naturelle, qui après se décline pour l'homme dans le décalogue. Mais vous voyez, c'est très important de se rendre compte que le fait de chercher la vérité et de chercher à connaître Dieu n'est pas un appendice facultatif, mais c'est la fin même de l'esprit. Si Dieu fait un esprit, cet esprit ne va pouvoir trouver de fuite par rapport au souffle de l'absurde que dans la recherche de Dieu, de l'absolu, et l'absolu a un nom, c'est Dieu. Mais, et s'il n'y a pas d'absolu, alors on est dans le marécage, on est des bulles qui craquent sur la surface, la marée putride de l'absurde humain, de la comédie humaine qui est plutôt une tragédie, et enfin un truc sans fond. Donc en fait, et saint Thomas a de beaux passages dans le livre 3, précisément un peu avant ces chapitres que je cite là, il consacre 25 chapitres à montrer que la béatitude de l'homme ne peut pas se trouver dans autre chose que dans ça. Donc si c'est ça la finalité d'un esprit, connaître Dieu, et si tous les corps sont au service de l'esprit, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que Dieu de temps en temps fasse un petit changement dans les lois des corps, ou agisse directement en survolant les lois des corps, pour permettre à la créature spirituelle, qui est le but de l'humanité, de le connaître. Oui. Ça, c'est très important. L'homme n'est pas pris dans une sorte de d'univers qu'il broierait, comme on voit un peu dans un peu la perspective stoïcienne. Hein. Le but de l'univers, c'est l'homme. Ça, c'est aussi présent dans les autres monothéismes. Bon, voilà la finalité principale. En finalité secondaire, c'est... En fait, ce sont des finalités en relation aussi avec le dévoilement d'une vérité, d'une vérité religieuse. Par exemple, c'est un aspect sur lequel Vatican II a plus insisté, si on prend les miracles du Christ. Vous verrez, si vous lisez le passage du catéchisme de l'Église catholique, les miracles du Christ non seulement prouvent la vérité de ce qu'il dit, c'est sur quoi moi je vais insister surtout, parce que c'est l'aspect qui est un peu perdu de vue aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une perte de la crédibilité, qui amène même les hommes d'église, par exemple, à se méfier du sueur de Turin. C'est assez curieux. Alors par contre, on a mis en lumière, assez justement, le fait que cette finalité secondaire, ou enfin disons, une autre finalité du miracle, qui est que par exemple, les miracles du Christ révèlent un aspect de ce qu'il est lui-même, du mystère de Dieu fait homme. Et surtout le fait qu'il est venu pour nous libérer du péché et de l'enfer. Donc vous voyez, quand il guérit quelqu'un qui est infirme, qui est paralysé, il nous guérit de la paralysie du péché. Quand il rend la santé à quelqu'un, il nous guérit du péché, qui est une, ou la lèpre, qui est une lèpre spirituelle. Vous voyez, dans tous les différents miracles qu'il va donner comme signe aux envoyés de Jean-Baptiste, qu'on appelle les fameux signes messianiques, sont pour indiquer que le Christ vient pour libérer l'homme d'un certain nombre de choses qui le ligotent. Et les miracles sont des signes symboliques de cette libération, en particulier pour les paralytiques. Donc ça, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et alors ça, donc, c'est attesté. Et également, le fait qu'il a une royauté sur les esprits quand le Christ fait des exorcismes. Donc il chasse le démon à plusieurs reprises. Et là, il manifeste ce qu'il est, c'est qu'il est le roi de tous les anges, et même des mauvais. Donc il peut les chasser. Et de même, les miracles cosmologiques qui accompagnent sa mort, d'après saint Thomas, sont le signe de sa royauté sur l'univers entier, le soleil se voile la face, le tremblement de terre, la terre se déchire, etc. Mais... Donc tout ça, c'est pour manifester quelque chose du mystère qu'il est. Et il y a d'autres cas où on voit le Christ, ou bien des saints, faire des miracles de bonté. Vous voyez, on voit le Christ ne peut pas s'empêcher. Quand quelqu'un a mal, il enlève son mal. Ou bien, voilà. Il y a des saints, par exemple, qui ont fait des miracles pour prouver la puissance, simplement la puissance divine, ou Dieu dans l'Ancien Testament a fait des miracles pour prouver la justice. Par exemple, la destruction de Sodome et Gomorre, le puits de feu et de soufre qui est tombé sur Sodome et Gomorre, ou le fait que les 400 prophètes de Baal ont été détruits par le feu tombé du ciel. C'est des miracles de puissance. Oui. Alors, ce n'est pas uniquement pour but de sortir d'un mauvais pas Élisée, qui a fait descendre ce feu du ciel, c'est quand même assez spectaculaire. Évidemment, ce n'est pas une perspective très œcuménique, je le reconnais. Bon. Mais enfin, c'était comme ça à l'époque. Hein. 400 prophètes rôtis comme des poulets. C'est pas très sympa, mais en fait, c'est ce qui leur est arrivé. Alors, le but, c'est pas justement de faire un effet Goldorak comme ça, quoi. Le but, c'est de prouver la bonté, la puissance et la justice de Dieu. C'est toujours des attributs divins, vous voyez. Le but, c'est pas de se faire plaisir, c'est de dire ce que je vous manifeste ponctuellement là, eh bien, ça a sa source en Dieu. Donc, vous voyez, c'est toujours une vérité qui est le but du miracle. Et un autre aspect, qui est évidemment très important, parce que habituellement, les thaumaturges, thaumaturges, ça veut dire celui qui fait des guérisons, si vous voulez, des choses remarquables, tauma, ça veut dire, bon, l'étonnement aussi en grec, taumadien. Donc le thaumaturge, habituellement, il est saint. Pas toujours, hein, ça peut arriver, mais c'est plus compliqué quand il ne l'est pas. Là, on peut arriver à discerner. Mais habituellement, il est saint. Et donc, vous voyez, le miracle a aussi pour but d'attester sa sainteté. C'est sympa pour lui. Surtout s'il y a des ennuis avec ses supérieurs, ou avec d'autres gens comme ça. Bon. Mais en général, ça n'arrive pas forcément les problèmes. On voit le Padre Pio, c'est sûr que les stigmates attestent aussi la sainteté du Padre Pio. Mais ça ne lui a pas valu la résolution de tous ses problèmes. Mais alors, voyez, en fait, ce n'était pas uniquement pour lui faire du bien à lui, parce qu'il y a aussi des miracles pour faire du bien aux gens, c'est sûr. Bien même des prodiges angéliques. Moi, des fois, j'ai des confidences, des gens qui me disent, voilà, il m'est arrivé telle chose, il y a mon ange qui a fait ci et tout. Alors, je dis, bon, très bien, puis on passe au point suivant. C'est pas très grave, les anges, il y a des anges qui font des trucs, c'est pas, on va pas non plus écrire des tartines là-dessus. Et ce qu'il faut voir, c'est les effets, les conséquences. Mais donc, voilà. Et donc, il y a des miracles aussi pour le bien, mais c'est pour prouver que Dieu est bon, vous voyez. Vous voyez, on dit que Saint Grégoire le Thaumaturge, un des pères de l'Église, qui a déplacé une colline qui gênait la construction d'un monastère. C'est sympa pour le père Abbé Lugoumène, il a pu construire son monastère, bon, ou assécher, bon. Il y a des tas de trucs marrants dans les miracles. Ben, il en faut un peu, pas trop, parce que ça peut scandaliser. Donc, si vous en rajoutez, comme dans la géographie médiévale, des miracles, dès le berceau, dès qu'ils se lèvent de leur mère, il se passe des tas de miracles, tous plus invraisemblables les uns que les autres. Bon, faut pas trop en rajouter quand même, parce que vous pouvez avoir un effet de rejet. Moi, quand j'étais agnostique, ça me révulsait, quoi. Le rajout, si vous voulez, sur l'excitation miraculeuse me donnait des boutons, quoi. Bon, donc Dieu est passé par autre chose, quoi. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a des miracles. Et surtout quand j'ai compris que c'est pour la vérité et pour prouver les attributs de Dieu, déjà, ça a une autre gueule, quoi. C'est pas uniquement pour faire plaisir en disant, moi, tu vois, mon linge lave plus grand, ma religion est meilleure que ta religion, quoi. Comme les prophètes les sages, les chaldéens, enfin, ou les différents prophètes de la cour du pharaon, et puis Moïse, qui faisait les uns des prodiges, les autres des miracles, et ça n'en finissait pas, quoi. Pour montrer qu'il était plus fort. Et c'est vrai que l'Ancien Testament se trouve quand même beaucoup dans la logique de la force de Dieu. Mais ceci dit, lisez-le quand même, hein, avec des bons commentaires, parce que il est très actuel pour nous aider à répondre et à comprendre l'islam et à y répondre. Parce que l'élément essentiel de l'islam, c'est Dieu comme force. Et la réponse de l'homme, la soumission. Et l'Ancien Testament est déjà manifeste aussi beaucoup Dieu comme force, mais déjà avec l'alliance de l'amour et de l'alliance, qui est en fait quand même absente dans l'islam, il n'y a pas vraiment d'alliance. Alors voilà, donc voilà la finalité secondaire. Donc, et pourquoi la sainteté du saint? C'est aussi au service d'une vérité, qui est la vérité fondamentale du christianisme, l'homme en état de grâce et le temple du Saint-Esprit. Donc vous voyez, les miracles sont toujours au service d'une vérité. Et donc il est normal que Dieu en fasse s'il en a besoin. Alors maintenant, là on a vu la notion de miracle, le pourquoi il était fait. Donc vous voyez, il y a trois éléments, il y a un fait, c'est factuel, c'est quelque chose qui s'est réalisé, c'est étonnant, c'est admirable, ça c'est psychologique, et puis c'est divin, ça pointe vers la vérité divine, ça c'est sémiologique, oui, c'est séméion. Dans l'évangile vous avez différents titres pour désigner ça. Vous voyez, on voit le, en tant que c'est une œuvre qui est étonnante, vous voyez, on l'appelle le tératone, quelque chose de des prodiges, vous voyez, on voit dans l'évangile de Saint Jean, on parle des prodiges et des signes. Donc, c'est le côté étonnant. Vous voyez, le diable aussi a ce côté étonnant, moins, enfin, il arrive aussi à faire des prodiges, des tératones. Mais dans le miracle, il y a quelque chose de plus. Il y a le fait que c'est une œuvre. Elle vient de Dieu. Donc, souvent, Saint Jean parle de l'ergon ou erga au pluriel. Hein. Le Christ dit, vous ne voulez pas me croire, mais croyez mes œuvres. Ce qui sort de moi, ce qui sortait du Christ, on va le voir, pas j'ai continu, mais très fréquemment, c'était des choses au-delà des forces de la nature. Il dit, si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Parce que vous voyez, le mot œuvre indique, rapporte à l'œuvre fondamentale qui est l'action divine. Et le Christ leur l'a dit aux Juifs, moi j'agis toujours comme mon Père. Dieu fait l'être constamment. Et nous, on fait des petits bricolages à l'intérieur de l'être. On dessine, on aménage des régions de l'être. Bon, ça nous occupe déjà assez longuement. Hein. Mais donc, voilà, le Christ lui a fait des œuvres étonnantes. Donc vous voyez, il y a cet aspect-là. Donc il y a l'aspect comme quoi c'est étonnant, hein, c'est le tératone. L'aspect comme quoi c'est une puissance divine, ça manifeste la puissance divine, c'est l'ergon. Et puis, c'est un signe vers la vérité, le séméion. Donc, ça c'est l'élément très très important qu'on va approfondir dans le troisième point. Les circonstances du miracle qui permettent de voir vers quoi pointe le fait étonnant. De distinguer le miracle de l'inconnu inexplicable naturellement, encore inexplicable naturellement, ou du prodige angélique. Enfin, là c'est encore distinguer des anges, bon, c'est moins grave, parce que si c'est l'ange ou Dieu, c'est quand même bon, quoi, mais surtout du prestige démoniaque. Donc ça c'est très important. Alors là j'ai abrégé ça, parce que c'est un paragraphe qui pourrait être assez long, et donc je pourrais le relire, la phrase que j'ai mise, et puis le petit tableau que j'ai fait. En fait, le miracle est discerné par ses circonstances. Ça c'est extrêmement important. Parce qu'à la limite, on pourra toujours discuter. Enfin, pas toujours. La résurrection du Christ, non, je crois. Mais en dehors de choses absolument majeures comme ça, ou la résurrection de Lazare. Mais ben, on peut toujours trouver des échappatoires. Je vais souvent citer cette phrase de Journet, « Malheur à celui qui cherche des prétextes, parce qu'il va les trouver. » Et de fait, on en trouve. Bon. Donc comment dire, c'est Dieu qui a fait ça, et pas le diable, ou bien une cause naturelle encore inconnue. Vous voyez ? Un gars qui déjà connaît plus vite des propriétés physiques ou chimiques qu'on a découvert 1000 ans après. Bon, il semble que dans l'Antiquité, il y a des Égyptiens qui avaient trouvé la batterie électrique, enfin des trucs. Bon, s'ils avaient gardé ça entre mages, évidemment, ils avaient un certain succès quand ils l'utilisaient et que les gens ne savaient pas ce que c'était. Mais ce n'était pas pour autant des miracles divins. Alors, j'ai mis ici la transcendance de l'effet par rapport aux causes naturelles. Donc il faut évidemment que l'effet, non seulement parce que nous savons pas tout ce que la nature peut produire, mais il y a des cas où on sait ce qu'elle ne peut pas faire. Il y a comme certains cas limites, mais où on se trouve en face d'impossibilités radicales, hein, d'ordre moins physique, si vous voulez. Et là, bon, on se dit, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Et alors un autre élément très important, c'est qu'il y a une liberté dans la production. Mais si vous avez un rituel unique, comme par exemple dans la magie, le blanc, le noir, mais enfin il y a des rituels. Et à certains de ces rituels, les démons sont liés. Donc, c'est pas tellement étonnant quand il y a un pacte. Vous êtes des cons, excusez-moi, ça ne sera pas mis sur internet. Mais vous êtes des nuls. Moi j'arrive avec 2000 ans de préparation de prophète, je fais des trucs incroyables, des choses avec des conséquences philosophiques et politiques inouïes. Vous ne me croyez pas, vous allez faire monter les morts du Sheol, comme a fait Saül, hein, pour avoir les dernières nouvelles de Monsieur Belzéboub et machin, et comment est-ce que j'ai des chances de gagner et tout. Et vous êtes liés et ça marchera comme ça. Et c'est ça le succès actuel du satanisme. Et le satanisme, il y a d'autres causes, mais en fait, c'est toute une part de la magie. C'est qu'il y a une espèce d'incrédulité fondamentale face aux métaphysiques de base, quoi, pas le truc incroyable de l'existence du christianisme. Et par contre, alors là, on parle du démon. Si vous voulez réveiller une assemblée de catholiques, parlez-leur du démon. Hein. Si vous leur parlez de Dieu, voilà, Dieu cool. Là, Dieu, doucement, tout le monde va au ciel. Cool, cool, super cool. Hein. Surtout depuis 40 ans, 50 ans, on a révisé tout ça, l'enfer est vide. Enfin, vous verrez l'année prochaine qu'il est pas vide. Mais enfin, c'est ce qu'on vous dit, quoi. Bon. Donc, cool. Alors, tout le monde dort, quoi. Parce que c'est Sopo au dernier degré. Et c'est parce que c'est Sopo aussi que les gens foutent le camp, excusez-moi. Mais bon. Par contre, vous parlez du démon, alors dès que vous avez la queue fourchue qui arrive, les oreilles machin, alors là, le mec, il y a le démon qui va nous faire sortir, dans l'arrière-loge, là et tout. Et faut courir des cardinaux, même. Il y avait un type qui a monté comme ça tout un canular, ça s'appelait Léo Taxil, qui a réussi à faire des conférences avec des cardinaux au premier rang sur la soi-disant manipulation entièrement démoniaque de toutes les loges maçonniques. Et puis après, il a dit, c'est un canular, voyez ce que les catholiques croient. Alors soyez pas balourds comme ça, l'été. Hein. Il y a peut-être du démon, mais c'est pas vous qui allez l'attraper par la queue. Et puis il n'est pas extraordinaire, moi j'ai fait des exorcismes, c'est impressionnant, c'est sûr. Il y a des démons, c'est vraiment, il y a eu des démons. Il y a des démons, ouais, c'est pas tellement. Il suffit, bon, ouais, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a des démons, mais enfin bon, ce qui est intéressant, c'est Dieu quand même, non? Dieu est original. Peut-être que le démon, il est chiant, excusez-moi. C'est toujours un peu les mêmes trucs. Parce que dans le Thaumaturge ou dans l'Évangile, il y a une liberté, c'est-à-dire qu'on va le voir dans le livre des miracles du Christ. Eh bien, c'est jamais forcément les mêmes choses qui sont employées. Parfois les mêmes, parfois c'est pas les mêmes. Il y a une production, c'est une cause libre qui agit. Bon, comme disait un des bouquins dont je me suis inspiré, la constance du miracle, c'est qu'il est inconstant. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre devant une glace et copier les miracles du Padre Pio ou de je ne sais qui, vous entraîner à dépasser la colline qui gêne pour le labourage de votre champ, en faisant comme Grégoire le Thaumaturge, en lisant mot à mot tout ce qu'il a fait, ça marchera pas. Enfin, je prends le pari. Hein. J'ai une bonne chance de gagner quand même. Parce que précisément, c'est pas de la magie, c'est pas des rituels, vous voyez. C'est pas mécanique, c'est pas physique, c'est même pas relativiste ou quantique. C'est divin. C'est pour ça que justement, c'est toujours varié. Il n'y a pas, si vous utilisez les fameuses lois de variation des antécédents, vous apercevez que vous n'arrivez jamais à vous y retrouver. C'est quand même des lois extrêmement fortes établies pour la médecine, pour la physique expérimentale. Vous pouvez varier tous les antécédents dans tous les sens, vous n'arriverez jamais à avoir une variation en relation avec celle de l'antécédent. Dans les faits, c'est toujours, ça sort de partout. Bon. Ensuite, c'est important, il y a une nature religieuse et morale des circonstances. C'est-à-dire que le miracle se produit dans une ambiance religieuse et morale. Pas pour arriver à des fins immorales, d'être riche au-delà du raisonnable, de jouir, de dominer les autres, de tuer. Il y a pas mal de gens qui s'accotinent avec des sorciers pour tuer leurs concurrents. Hein. Ça marche, hein. Je veux dire, l'industrie, là, elle fonctionne. Hein. Mais faites pas ça, les gars. C'est pas gentil, c'est pas vraiment gentil. Et ensuite, c'est extrêmement dangereux parce qu'après, vous serez attrapé, vous. Je sais pas si je vous ai raconté que moi, il m'est arrivé, à deux d'entre nous, il est arrivé de discuter avec des Françaises, passer à l'islam. L'un, c'était dans la rue, moi, c'était dans un train de banlieue. Je vais même dans les banlieues. Et alors, elle était dans le côté, elle était intéressée parce que je lisais mon bréviaire. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous lisez? C'est intéressant. Ah, c'est bien, vous êtes religieux et tout. Moi, je suis islamique et tout. Parce que quand j'étais petite, j'avais le diable qui m'embêtait. Et les prêtres n'ont pas voulu m'exorciser. Donc, elle est allée trouver les shayers. Donc, elle est allée trouver des gars qui ont des pouvoirs dans l'islam. Et du coup, elle dit, j'ai beaucoup mieux. Mais où est son âme? Je veux bien qu'elle aille mieux provisoirement, mais enfin, je ne vous conseille pas de faire le coup. Hein. Parce que c'est extrêmement dangereux des trucs comme ça. Oui, parce qu'évidemment, il peut produire, il peut en effet avoir, il peut demander aux démons qui l'embêtaient, si elle avait vraiment une infestation, une possession diabolique, d'arrêter, mais du coup, soit pour la rattraper après, soit par une autre possession, soit au contraire pour que son âme soit enferrée, parce qu'elle était très emballée de l'islam. Hein. Quand elle m'a quitté, elle était sympa, mais elle m'a dit, je ne peux pas vous tendre la main. Parce que moi, je suis un homme et elle, une femme. Elle dit, je suis désolé. Pas. D'ailleurs, elle m'a quand même envie de prier pour son gosse qu'elle allait voir à la clinique. Mais ça fait quand même mal au cœur. Moi, j'ai dit ça à l'exorciste de mon diocèse, ça ne lui a rien fait. Mais écoutez, faites des exorcismes, que les gens ont besoin de passer à l'islam pour que le chéir les exorcismes. Bon. Alors donc, une nature religieuse et morale. C'est que le but n'est pas d'amener à quelque chose qui ne va pas, vous voyez, qui est faux. Vous voyez, Pascal, qui est quand même, avait oublié d'être bête, Blaise, Pascal, il avait oublié d'être bête et il disait, le miracle certain discerne la doctrine encore douteuse, encore incertaine, et la doctrine certaine discerne le miracle douteux. C'est-à-dire que, vous voyez, si vous avez dans les circonstances d'un miracle, une doctrine qui est contre la raison, ou qui est contre un dogme que vous savez parfaitement être établi, eh bien vous pouvez laisser de côté. Vous n'avez pas besoin de continuer l'examen. Mais dans les commissions canoniques, c'est très facile. Moi j'ai eu à examiner, on m'a fait relire une retraite sur un certain lieu d'apparition, que je ne nommerai pas, mais qu'un tiers des personnes veulent dîner. Et alors j'ai dit, je vais censurer uniquement la partie qui est propre à l'auteur, parce que les textes de l'apparition, j'imagine que ça relève de la commission canonique. Et c'est vrai que dans deux ou trois cas, j'avoue que j'aurais pas donné le bon Dieu sans confession à ce que disait la... Bon. Enfin, il n'y avait pas directement de truc, enfin, c'est un peu limite. Quoi. Mais enfin, si j'avais trouvé un truc directement contre la raison, contre un dogme, j'aurais arrêté ma censure du reste, c'est clair. Bon, parce que le Dieu ne peut pas se contredire. Donc tout ça permet de discerner Dieu avec certitude comme l'auteur du miracle, vous voyez. Parce que si, il n'en allait pas ainsi, si vous aviez l'effet transcendant par rapport aux causes naturelles, une absolue liberté de production, la nature religieuse et morale des circonstances, et puis un effet bon, on va le souligner tout de suite, c'est-à-dire qu'après le miracle, ben, la personne va mieux, elle est plus dévouée à ses devoirs d'état. Ça. Moi, c'est pour ça quand quelqu'un me dit, ben, j'ai la Sainte Vierge m'a dit ici ou ça, je dis très bien, bon, est-ce que vous faites bien votre prière du matin et du soir, est-ce que vous êtes gentil avec votre belle-mère, plus qu'avant, etc. Ouais, etc. Bon, est-ce que vraiment vous progressez? Et si c'est oui, bon, on peut passer au point suivant. Pas besoin de faire une enquête canonique, savoir si c'est vraiment l'ange ou la Sainte Vierge, ou l'imagination de la bonne femme. Moi, je crois que les anges interviennent quand même peut-être pour moi. Mais bon, mais c'est pas grave, c'est pour mettre de l'ambiance, si vous voulez. Mais si le gars me dit, vous comprenez, je crois qu'il y a un ange qui m'est apparu. Un diabon, et puis qu'est-ce que j'en sais comme confiance? Moi, je pense que quand même, bon, puis donc, vous apercevez que le gars, il devient comme la grenouille qui se fait plus gros que le bœuf, et un absolument puant et imbuvable, ben vous dites, bon, ben, votre ange, ça va, il a peut-être un ange de lui, qui se déguise en ange de lumière, c'est un démon, hein. C'est sûr qu'il y a un effet d'humilité, vous voyez, dans le vrai miracle, il y a un effet d'humilité, d'approfondissement, de paix, si vous voulez. Si vous avez très souvent dans les prestiges démoniaques, il y a une excitation pas possible, qui souvent se termine par les meurtres en plus. C'est très souvent dans les machins démoniaques, il y a du meurtre parce que, voilà, c'est bon. Donc tout ça, c'est quand même pas bon signe. Alors voilà, j'ai mis un petit tableau. Mes capacités informatiques vont jusque-là. Mais je croyais avoir supprimé les... Bon, mais enfin, oui, bon. Je crois que j'ai encore des progrès à faire. Et alors donc j'ai mis quatre éléments, vous voyez, un peu comme quand on fait une enquête de police, ça c'est intéressant. Hein. Autrefois il y avait un vers latin qu'on savait par cœur pour interroger qui, comment, avec quels auxiliaires, dans quel but, quand, où, à quel moment, etc. Donc on fait une enquête de police. Pour le miracle, c'est ce qu'on fait. Hein. Par exemple à Lourdes, dans le bureau des constatations médicales, hein, qui a examiné les 6772... Le miracle, les gens qui pensaient bon avoir affaire à un cas miraculeux. Donc il y a un premier bureau médical qui est composé auquel peuvent intervenir des agnostics, etc., des médecins. Alors on pose 6 questions. Est-il certifié que la maladie existait au moment du pèlerinage à Lourdes? La maladie a-t-elle cessé brusquement alors qu'il n'y avait pas tendance vers le mieux? S'il y a une tendance vers le mieux, c'est éliminé. Hein. Y a-t-il guérison? A-t-elle eu lieu sans l'emploi de médicaments? Y a-t-il lieu de sursoir à la conclusion? Une explication médicale était susceptible d'être donnée. La guérison échappe-t-elle aux lois naturelles? Et sur les à Lourdes, vous savez, il y a des millions de gens qui sont passés hein, depuis les apparitions. Et il y a eu donc 6772, enfin, au moment où le frère qui m'a passé les notes a fait la conférence, personnes qui ont présenté. Il y a beaucoup de gens qui ne les présentent plus maintenant, c'est à cause de la presse ou je sais pas. mais qui ont dit, bon, il semble qu'il y a un cas miraculeux. Et sur les 6772, 2300 ont été déclarés inexplicables par le comité scientifique des médecins. Mais donc c'est quand même impressionnant. Oui, il y a quand même une rigueur vraiment. Mais alors là, vous vous dites, bon, bah, donc il y a eu 2300 miracles déclarés, pas du tout. Il y en a eu 67. Je crois qu'il y en a 68, parce qu'il y en a un 68e qui a été reconnu il y a peu de temps. Mais c'est extrêmement difficile parce que, une fois que les médecins ont terminé de poser ces questions, une fois qu'on peut raisonnablement dire, bon, bah, c'est inexplicable avec ce que nous savons, nous, médecins, ouais, c'est, ils disent ça dans leur honnêteté, oui, les récits d'Alexis Carrel, par exemple, bon. Eh bien, ça ne suffit pas pour dire que c'est un miracle, parce que l'Église veut être certaine qu'il y ait le halo sémiologique, vous voyez, qui pointe dans la direction de Dieu. Qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas toute erreur, si vous voulez, va pas bénéficier à l'accusé, quoi, au malade en tout cas, va au contraire dire, bon, on ne s'en occupe plus. Mais toute possibilité qu'il y ait une explication naturelle, ou d'autosuggestion, ou un prestige, ou n'importe quoi. Et alors, on a donc retenu seulement 67, donc c'est impressionnant, vous voyez, le sérieux de l'enquête. Est-ce que vraiment ça a eu un effet bénéfique spirituellement? Est-ce que le miracle... Vous voyez, j'ai mis par exemple la première chose, invocation de Dieu. Est-ce que le miracle a été demandé par une prière faite au Dieu créateur, selon une forme de prière conforme à la raison et à la révélation pour la partie qui est connue? Est-ce que le thaumaturge était moral, saint, etc.? Bon, et puis l'admirable simplicité, la transparence des moyens, ça on va y revenir pour le Christ, c'est très important. Vous avez des prodiges attestés dans certains textes du paganisme ou d'autres religions, et il n'y a pas de raison de mettre en doute la réalité des témoignages, hein. Mais souvent c'est très compliqué, hein, les rituels sont très compliqués et puis sont plutôt sordides parfois, tandis que vous voyez dans les miracles de certains saints et du Christ en tout cas, il y a une transparence tout à fait extraordinaire. Donc voilà les circonstances du miracle. Alors maintenant on passe à l'autre aspect. On va être obligé d'aller plus vite. Il convenait que le Christ fît des miracles. Alors, ben, vous lirez le texte, puisque je l'ai tapé. J'ai mis la première raison, c'est confirmer la vérité de l'enseignement. On va y revenir en conclusion. Le but essentiel du miracle, alors c'est les citations que j'ai mis au début de la page 2, c'est pour certifier que la doctrine surnaturelle que le Christ donne vient de Dieu. Et les miracles des apôtres, ce sera la même chose. Ils donnent la doctrine du Christ, ils font des miracles pour prouver qu'ils sont bien envoyés par le Christ et par Dieu. Mais ce qui est curieux, c'est que tous les prophètes, en fait, quand ils font des miracles, c'est dans la perspective du Christ, donc vers le futur, et les apôtres ou les saints, c'est dans la perspective du Christ vers le passé, enfin, le présent, puisque le Christ est ressuscité, mais c'est toujours centré sur le Christ. Le Christ est le nœud des miracles, vous voyez. Du Christ sortent les œuvres de puissance qui manifestent qu'il est Dieu, il agit comme Dieu, et de lui sort cette aura qui a impressionné ses contemporains et qui se manifeste dans des tas de choses dont j'ai un peu listé une partie là. Et puis en retour, ça pointe vers lui. Cet homme qui fait ça n'est pas un homme ordinaire, écoutez-le, et que dit-il? Je suis Dieu, comme on l'a vu en octobre. Vous voyez? Bon, donc voilà la raison première du miracle. Il convenait que le Christ fait des miracles, et ça convenait d'autant mieux, vous voyez, que le Christ est un homme qu'il a une chair. Je vous ai dit qu'on aurait pu se passer des miracles du type de ceux que je vais vous énumérer, qu'on a déjà évoqués, on aurait pu se contenter des signes de crédibilité de l'Église. Et c'est vrai que pour un esprit droit, moi je crois qu'il faut beaucoup insister sur ces signes, la crédibilité des saints et de l'Église. Et c'est pas du tout à la mode, mais je crois que c'est extrêmement fort. Moi personnellement, si je suis revenu à la foi et à l'Église catholique, c'est en grande partie à cause de la crédibilité historique, philosophique, artistique, humaine de l'Église catholique. C'est un argument extrêmement fort. Mais il est vrai que nous sommes perturbés par les sens, nous sommes passionnés, nous sommes gênés à cause du péché originel, et donc il convient que nous soyons réveillés par les sens. Si un miracle se produit, on voit Saint-Pierre, Saint-Paul, quand il y avait quelque chose, ou les gens qui sont en contact d'un miracle, eh bien, ils sont tout bouleversés. On voit le récit de Carrel, certains le refusent, comme Zola qui est allé à Lourdes, qui a vu des guérisons inexplicables, mais et il était décidé à ne pas croire. On va insister là-dessus tout de suite, le miracle n'est pas quelque chose qui force à croire, mais si on a le bon cœur pour croire, le miracle nous met quand même dans un état correspondant, du fait que, vous voyez, que l'homme est sensible, il convient qu'il ait des secousses sensibles pour le ramener à la réalité. Et souvent dans notre vie, il y a des miracles ou des signes, moins de Dieu, qui n'a pas besoin de faire enregistrer par le bureau de Lourdes, mais quand même qui sont des choses très sensibles. on voit dans notre histoire de grâce ou dans l'histoire des gens qu'on connaît, c'est souvent vraiment des chocs ou même des... Voilà, c'est quelque chose par étonnant, vous voyez, enfin des coïncidences qui sont interprétées comme un signe de Dieu par celui qui en est bénéficiaire. Ce ne serait peut-être pas un miracle canonique, mais moi je crois que c'est très important quand même, ça peut aussi jouer dans un sens tout à fait positif. Bon, donc il y a ça parce qu'on est sensible, et puis aussi parce que Christ est incarné, vous voyez. Le plus grand, je vous l'ai dit quand on a parlé de l'incarnation, le plus grand des gestes, j'ai traduit ça, geste admirable, hein, le mot employé par saint Thomas, c'est mirabilia, c'est le même racine que miracle. La chose la plus étonnante que Dieu ait fait, c'est qu'il soit fait homme. Donc s'il se fait homme, il est normal aussi qu'après il y ait des choses sensibles qui accompagnent son humanité, vous voyez. Qu'il n'y ait pas seulement le Christ tout seul, mais qu'il y ait des Padre Pio, qu'il y ait des, vous voyez, des gens qui font des choses. Et des apôtres, et voilà. C'est convenable. Parce que le Christ étant incarné, bon ben il est présent. Vous voyez, dans le miracle, il y a une espèce de paternité de Dieu. Dieu ne nous laisse pas, vous voyez, si on a besoin. Moi je me souviens, mon premier père religieux me disait, s'il y a besoin d'un miracle pour faire croire quelqu'un, Dieu le fera. Et je crois que c'est vrai. Saint Thomas le dit, un indigène au fond de sa brousse, Dieu lui enverra un ange pour lui révéler la Trinité, l'incarnation. Bon. Et c'est très vrai, je crois que c'est. Donc si l'homme a le cœur ouvert, il aura les miracles ou les signes qui lui correspondent. Voilà. Donc j'ai mis tout un tas de citations qui montrent que le Christ s'est appuyé sur ses œuvres pour dire, eh bien vous devez ouvrir votre cœur à l'affirmation de la divinité. Donc ça c'est important parce que je vous signale aussi aujourd'hui, c'est un point qui n'est pratiquement jamais rappelé. On croit que c'est faire de la peine aux gens que de leur dire, écoutez, le catholicisme a la crédibilité pour lui. Alors, c'est peut-être énervé certains, c'est peut-être provoquer une persécution de la part d'autres, mais on est obligé de le faire, sinon c'est pas la peine d'être catholique. C'est vraiment pas la peine. Alors est-ce que le Christ a accompli des miracles? Là, je peux aller assez vite parce que je vous ai copié un petit compendium qui est assez impressionnant. Et encore, j'ai pas tout mis. Le nombre des miracles, leur variété, leur liste, enfin, les témoins, la qualité des témoins, les ennemis, les enquêteurs, et puis la pauvreté des moyens. Et c'est vraiment impressionnant. Saint Thomas nous dit, certes, il y a d'autres qui ont fait des miracles, mais le Christ en a fait... si ce n'est plus, parce qu'il y a des saints comme Saint-Vincent Ferrier qui en ont fait beaucoup, mais du moins de façon plus variée et plus impressionnante. Donc voilà, il y a une abondance inouïe de miracles dans la vie du Christ. Et par exemple, vous voyez, dans le quand je parle, dans le deuxième paragraphe, là, la deuxième étoile du désert, là, le deuxième petit signe de nature très variée, ben à la fin, il est parlé des miracles de légitimation. Ça, vous voyez, par exemple, quand le Christ dit, bon, vous voyez, ce peuple ne m'écoute pas, il va être comme le figuier, paf, le figuier desséché. Vous voyez, c'est comme impressionnant, ça. Ou bien, quand le Christ, on lui reproche d'être avec les pécheurs, de se présenter comme quelqu'un qui peut soigner intérieurement, parce que ça relève seulement de Dieu de remettre les péchés, dit, qu'y a-t-il de plus difficile de dire tes péchés te sont remis, ou de dire à un paralytique que tout le monde connaissait comme tel, lève-toi et marche, afin que vous sachiez que j'ai, moi le Fils de l'homme, c'est une périphrase pour lui, que j'ai le pouvoir d'en mettre les péchés, c'est que je suis Dieu ou envoyé par Dieu, lève-toi et marche. Et le type se lève et marche. Ben essayez de faire ça, vous, pour prouver à votre patron qu'il doit vous accorder l'augmentation que vous demandez depuis. Ça risque de pas marcher. Mais le Christ, voyez, on l'a fait quelquefois pour l'histoire de l'impôt. Il dit, est-ce que tu payes l'impôt, etc. On cherche des questions de fric, il y en avait beaucoup à l'époque, parce qu'il y avait des impôts à n'en plus finir, et il fallait payer l'impôt du temple. Et alors le Christ, pour montrer qu'il payait, et qu'en même temps il était libre, il se débrouille pour qu'il y ait un poisson qui attrape au moment voulu une pièce. Il paraît qu'ils attrapent des cailloux pour se rincer la gorge et tout, donc voilà, ça tombait bien, c'était la didrachme. Et puis pour que ce soit celui-là, que Saint-Pierre attrape. Bon, c'est pas très difficile, bon, mais il n'a pas multiplié ce genre de jeu. En plus, c'est pas non plus de la prestigitation. Mais c'est, le but, vous voyez, c'est à la fois de montrer, bon, ben, qu'il fait ce qu'il veut avec les poissons, avec les pièces, etc. Puis de montrer que lui, il est exempt. De soi, il dit, le fils ne paye pas l'impôt à son père, le fils du roi. Mais pour éviter le scandale, vas-y, attrape le poisson et paye pour toi et pour moi. Pour montrer qu'il est exempt et que Pierre est sur le même plan que lui. C'est extrêmement touchant comme miracle. Bon, il y en a plein. Et ça n'arrête pas, avec un signe, avec de la salive, une disproportion totale des moyens. Hein, le Christ, vous pouvez toujours essayer, vous n'y arriverez pas à obtenir le résultat, hein, qu'il a obtenu. Et alors donc la conclusion, sixième point, c'est que les miracles montrent, vous voyez, c'est le terme employé par saint Thomas, comme un doigt. Les miracles n'obligent pas à conclure, enfin, ils incitent, ils induisent, je préfère le mot, ils induisent, ils montrent la divinité du Christ. Nous avons vu que le Christ a affirmé sa divinité, il a fait des miracles en faveur de cette attestation de sa divinité, et donc, tous ces miracles, accomplis très souvent d'ailleurs par sa propre puissance, et surtout en son propre nom, parce que les apôtres font aussi des miracles, mais des miracles qui renvoient au Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Bon, lui c'est moi, hop, sans rien dire, comme ça. Alors, le raisonnement de saint Thomas est extrêmement fort. Il ne peut arriver qu'un homme prêchant une doctrine fausse opère de vrais miracles. Alors, j'apporterai une précision, ou peut-être vous me poserez des questions là-dessus. Qui ne peuvent être faits que par la puissance divine. Dieu serait alors le témoin de la fausseté, ce qui est impossible. Vous voyez, c'est même métaphysiquement impossible. Comme donc le Christ se disait le Fils de Dieu et son égal, les miracles qu'il faisait prouvent la vérité de cette doctrine. Vous voyez, ça c'est donc ce à quoi je voulais arriver, qu'a fait Cathédoctor d'octobre celui-ci, c'est que les miracles que le Christ a fait prouvent la vérité de ce qu'il a dit, on a vu qu'il l'avait dit, et l'affirmation de sa divinité. Alors je termine sur une remarque très importante, parce que la foi n'est pas la conclusion d'une démonstration d'un syllogisme. Il faut avoir des yeux, de bons yeux pour voir, donc les yeux c'est l'histoire, c'est la formation, c'est la connaissance, c'est le catéchisme. Il faut connaître, avoir de bons yeux pour voir, du bon sens pour discerner, et un bon cœur, c'est un cœur ouvert, pour s'ouvrir à la foi. Il faut les trois. Parce que en face d'un miracle, certains s'endurcissent. Parce que souligne à juste titre le catéchisme de l'Église catholique, certains des miracles, la résurrection de Lazare, a même été le signal de la persécution accrue contre le Christ et de la décision de la mise à mort. Parce qu'on peut éluder, si vous voulez, en trichant et en commettant même ce que saint Thomas appelle le premier des. Enfin, une des espèces du péché contre l'esprit, le refus de la vérité connue. Qu'allons-nous faire? Tout le peuple court après lui, il fait beaucoup de miracles, tout le monde va le suivre, donc c'est qu'il est au moins un prophète, mais on décide de le mettre à mort et même de tuer Lazare. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'impugnation de la vérité connue, c'est évidemment un très grave péché. Mais on peut le commettre. Donc, il est important de à la fois de souligner la valeur monstrative du miracle, mais en même temps d'insister sur la disposition du cœur. Si quelqu'un n'est pas dans une attitude d'ouverture du cœur, le signe tombera dans le vide. Et c'est pourquoi il lui faut peut-être préalablement des épreuves pour qu'il arrive à une certaine humilité, à se poser des questions, à voir s'il est bardé dans ses fausses certitudes. Et saint Thomas, c'est là-dessus que je termine, saint Thomas, donc dans un autre traité apologétique très émouvant, qui s'appelle le traité des explications ou des raisons de la foi, qu'il a envoyé à un chantre d'Antioche pour lui permettre de discuter avec les Arméniens, les Sarrasins, etc., les Juifs. Donc dans le traité des raisons de la foi, il dit voilà, on aurait pu imaginer que tous ces miracles qui ont été vus par des témoins oculaires ont en fait été inventés par des gens qui étaient la cour du Christ. Le Christ était un chef puissant, comme le sera Mohammed, semble-t-il, quelques siècles après, un chef militaro-politique, si vous voulez, et donc, par esprit de vénération, ses disciples, hein, ce roi, un moun, quoi. Un moun, je ne sais pas comment on pourrait dire comme exemple moderne, quoi. Donc c'est un type, vu qu'il est puissant, on lui prête aussi des pouvoirs, qu'en fait il n'a pas. On attribue, voyez, on va plaquer sur lui par adulation, hein, pour faire une espèce de délire politico-mystique. Vous savez, ce que je vous dis, c'est pas ça des inventions. Beaucoup de religions sont plus ou moins fondées là-dessus. C'est un prince, c'est un roi, etc. Bon, c'est pas le cas du Christ. Et donc, justement, alors, pour faire face à cette objection, saint Thomas nous dit, eh bien, le Christ a choisi tout le contraire. Alors là, il y a une énumération très impressionnante que j'ai omise. Des parents pauvres, une naissance ignorée, des disciples cultivés, une patrie pas importante, aucun moyen financier, etc., etc. La contradiction des empires environnants, et tout. Et il dit, si quelqu'un, ayant vu la conversion du monde, de la quasi-totalité du monde connu, sortir de tel début, de telle prémisse, il réclame encore des signes. On peut dire qu'il est plus dur que la pierre, que son cœur est plus dur que la pierre, car les rochers se sont fendus à la résurrection du Christ. Et ça, c'est, je crois que c'est le cœur, à mon avis, de la pensée de Thomas sur les miracles. Le plus grand des miracles, c'est vraiment l'essence du christianisme et sa diffusion, la façon dont il s'est diffusé. Il le cite au début de la somme contre les gentils, et ici, dans ce paragraphe que je vous cite. Voilà, en conclusion, ces quelques considérations. Merci de votre attention.
première question. J'avais vu il y a de nombreuses années un reportage télévisé où on voyait en Inde une statue produire du lait. Bon, c'est un miracle, pas un miracle ou autre chose, mais en tout cas on pouvait observer un phénomène surnaturel. Est-ce qu'il est possible de ce fait que Dieu passe à travers certaines autres religions ou pour toucher une population et qui ne sont pas proches ou qui n'ont pas connaissance du christianisme.
Voilà, est-ce que Dieu peut passer par oui, je crois que oui, enfin ça paraît. Il y a des cas où c'est plus... le problème c'est le discernement. Il est certain que il peut y avoir, et il semble que même à peu près certain, il y a de vrais miracles dans des religions qui ne sont pas la religion catholique, évidemment spécialement dans l'Orient dissident. C'est-à-dire qu'il y a des miracles eucharistiques, il peut y avoir un miracle eucharistique chez les orthodoxes. Mais alors, le problème, c'est que quand se produit ce miracle, la couronne, si vous voulez, des circonstances sur lesquelles j'ai insisté, permet de discerner qu'il va témoigner en faveur spécifiquement de la présence réelle et non pas de la séparation du patriarche de Moscou avec le pape de Rome. Et donc c'est quelque chose qui devient plus délicat. Il semble que Saint Séraphim de Sarov était nourri par son ours qui lui apportait de la bouffe, quoi, enfin de la nourriture. Et donc Saint Séraphim de Sarov, qui est un saint russe récent, c'est pas du tout étonnant, parce que qu'est-ce que prêchait Saint Séraphim de Sarov? Une doctrine extrêmement exigeante sur la transformation de l'homme par les purifications, par le purgatoire, enfin un peu quelque chose d'un peu analogue à Saint Jean de la Croix, et donc le mépris du monde, la transcendance de Dieu. Donc on peut, si l'ensemble des circonstances permettent de montrer que le prodige pointe vers la partie vraie de la religion, on peut estimer que c'est un vrai miracle. Alors plus on s'éloigne du christianisme, plus ça devient délicat. Mais c'est pas exclu qu'il y ait que Dieu... Alors il faut analyser dans chaque cas, est-ce que cette statue, qu'est-ce qu'on en concluait? Est-ce que ça servait à augmenter les... Parce que parfois il y a des prodiges qui servent à augmenter le revenu du monastère, ou par exemple le fait que certains moines bouddhistes, jusqu'à ce que ce soit interdit par le gouvernement chinois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y avait ce qu'on appelait la transformation assiste, c'est-à-dire qu'ils se brûlaient par le feu. Vous savez, ils se consumaient par le feu, et sinon ils étaient arrivés suffisamment aux états de transformation, et ils étaient devenus bodhisattvas, donc réincarnation du Bouddha, et ils n'avaient plus besoin de rester sur la terre, et donc quand ils se brûlaient par le feu, les gens venaient donner beaucoup de monde au monastère. Bon, donc évidemment, ça jette un petit doute sur le caractère divin de cette brûlure. Mais il peut y avoir en effet des prodiges. Là, il faut voir quelle était la conclusion de cette... si c'est pour ramener les gens à la pensée du divin, pourquoi pas. En tout cas, il semble qu'il y ait eu, pour un miracle plus proche de nous, il semble qu'au Caire, il y a eu une apparition mariale sur le toit d'une église copte donc dissidente par rapport à Rome, pas une église pour en faveur de que des musulmans ont vu. Donc ça, c'est possible. Ben, il y a 10-20 ans, pas beaucoup plus, dans les années 80. Et ça a été vu par des tas de musulmans. Alors comme les Coptes sont, il faut avoir beaucoup prié pour eux, comme pour tous les chrétiens d'Orient, sont extrêmement menacés, et il y a des pressions terribles pour les conversions à l'islam, évidemment ça devient un encouragement maternel de la Sainte Vierge. Mais évidemment, plus on s'éloigne, plus on va vers le paganisme, plus le démon aussi se mêle un peu. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut quand même être assez large et examiner cas par cas. Les tenants et aboutissants, qu'est-ce que les gens en déduisaient? Est-ce qu'ils en arrivaient à une plus grande moralité dans leur vie? À ce moment-là, bon, ça vient peut-être de Dieu. Oui.
Complémentaire, parce que c'est vrai, vous avez mentionné tout à l'heure que dans d'autres religions, il y a des exemples de naturels, et je pensais particulièrement aux miracles qui sont dans le Coran, parce que si on dit les miracles de notre Seigneur attestent de la véracité de son message, alors on devrait pouvoir dire, et c'est ce que nous pensons devant les musulmans, que Mahomet aussi, puisqu'il est monté avec sa jument, et tout ça...
Oui, alors le problème de... pour le Coran, c'est que nous, nous avons accès à un texte de l'Évangile qui est vérifiable en dehors de la foi. C'est-à-dire que nous savons que nous avons un texte, nous avons deux copies intégrales, Sinaiticus Vaticanus, qui datent du début du IVe siècle, donc moins de deux siècles après la mort de Saint Jean, copie intégrale du Nouveau Testament. Et nous avons des fragments de Saint Jean qui sont de 10-15 ans après sa mort. Ça, n'importe quel, même un savant hébraïque pourra vous dire oui, c'est ça. Mais, bon. Et en plus, on a des recoupements par des auteurs comme Philon, qui était juif, un courtisan des Romains, mais enfin juif, et puis par Tacite, enfin Suétone, d'autres auteurs, des recoupements sur la nature même du christianisme. Donc, je veux l'attestation historique des évangiles est beaucoup plus forte que l'attestation historique de la carrière de Muhammad. Beaucoup plus forte. Et en plus, elle est vérifiable parce que nous pouvons remonter au texte et nous pouvons remonter à la critique qui a été faite des textes par des amis et par des ennemis dès le début. On peut voir la controverse de Saint-Justin avec tel ou tel anti-apologète romain. Et donc on suit tout ça. Parce que pour l'islam, sur les premières décennies, et disons presque le premier siècle ou un siècle et demi, on est dans le noir. Et on n'a pas la possibilité de remonter à une étude critique du Coran, parce qu'ils ne veulent pas. On n'a pas accès au texte. Et donc ça c'est factuel, si vous voulez. Et je crois que d'une certaine façon, l'apologétique musulmane s'y oppose, parce qu'en fait, elle ne se préoccupe pas de la crédibilité comme nous. Le rapport de la raison et de la foi dans l'islam est très différent, me semble-t-il. Je ne parle pas des intellectuels hein, ou de certains philosophes qui ont, à l'intérieur du cadre de l'islam, mais à titre privé. Il faut voir que le statut de la philosophie dans l'islam, ça a bien été montré par Rémi Brague dans un livre qui s'appelle « Au moyen du Moyen-Âge » et où il réunit des communications, mais il a écrit d'autres livres là-dessus. La philosophie en Occident est une institution à partir du XIe siècle, quoi. Avec des universités des arts et des lettres à Naples et ailleurs et dans différentes ce qui deviennent des universités en Europe où on paye des gens pour faire de la philosophie et pour étudier Aristote. La philosophie de langue arabe, soit par des musulmans, soit par des juifs comme Maïmonide, est une institution privée, sont des médecins et des juristes qui font de la philo le soir chez eux. Donc c'est très différent. Et donc en fait le philosophe musulman et le théologien, si vous voulez, si on peut imaginer qu'il y a une théologie en islam un peu différente, sont deux mondes qui souvent se disputent. Hein, les falsafa, les mutakalim, c'est deux gens à... Non, les mutakalim, c'est un peu des apologètes, ou les falsafa, c'est des gens qui sont plus en communication avec nous. Falsafa, ça veut dire philosophie en arabe, si vous voulez, sagesse. Hein. Et donc, on peut discuter avec eux, Avicenne, Averroès et tout ça, mais ils sont suspects parce qu'ils sont un autre monde. Vous voyez, ils font de la philo à titre privé. Est-ce que les mutakalim, ils sont payés par les califes pour expliquer le fiqh, le droit, la charia, le Coran, etc. L'islam est essentiellement une loi. Donc ces gens-là, voilà, tout ça, c'est ça. Tandis qu'en Occident, les théologiens sont tous des philosophes. Parce que pour faire de la théologie, il faut d'abord faire de la philosophie. Et il y a un cursus, trivium, quadrivium, étude d'Aristote, et puis l'étude de la sacrée page, donc l'écriture sainte. Donc le rapport est extrêmement différent. Ce qui fait que la confrontation, qui est très ancienne, hein, extrêmement ancienne, mais qui est devenue critique aiguë à partir du, disons, de la période moderne, enfin 16e siècle, et suraiguë au 19e, la confrontation critique, la lecture historico-critique de l'évangile est faite. Et l'évangile existe encore. Qu'en sera-t-il du Coran quand elle sera faite? Là, il y a un point d'interrogation. Alors, je le dis en toute amitié vis-à-vis des musulmans, mais je crois que ce serait de bonne guerre, si vous voulez, que nous. Si c'est une religion révélée par Dieu, ne doit pas craindre la confrontation. Or, leur réaction de dire non, c'est déjà presque un blasphème de vouloir que la raison vienne en appui à l'auto-affirmation infinie et sans limite de cette révélation, si on veut, naturelle qu'est l'islam. Quoi. Et justement, je crois qu'une des forces de l'islam, c'est son culot, si vous voulez. C'est son culot. Mahomet, ce sont des prophètes. Les autres ont falsifié avant. Mais nous sommes une religion qui dit il y a une autre religion, celle des juifs, qui a les mêmes livres que nous. C'est inouï, comme quand le catholicisme a dit oui, il y a une autre religion, mais ils ne connaissent pas le Christ, mais ils ont les mêmes livres. Eux, ils disent ah oui, non. D'accord, ils disent oui, Issa, Seigneur, Mariam, etc., prophète, machin, mais vous avez falsifié. Et les juifs, alors parlons pas, les juifs, ils ont surfalsifié. Et toi, alors, on pique des morceaux, on ne sait pas trop comment ça s'est constitué le Coran. Semble-t-il qu'il a été extrêmement, vous avez beaucoup de thèses, extrêmement influencé par. des groupes qui étaient à la fois sous l'influence des juifs et des chrétiens, des judéo-nazaréens, et les chrétiens qu'ils connaissaient étaient souvent des hérétiques. Et certains ont même dit que le Coran serait une sorte de lectionnaire de langue arabe fait à partir du syriaque. Enfin, il y a des études approfondies, mais on tâtonne beaucoup. Il s'est formé, si vous voulez, avec ses voisins qui étaient des rabbins, qui étaient des hérétiques chrétiens et qui étaient des judéo-nazaréens. Si la thèse récente qui est sortie de Galès est juste, mais on est complètement dans le bleu là-dessus, vous voyez. Et donc lui il dit, ben, tous les autres avant, oui mais ici moi je suis meilleur parce que je suis après. Vous voir, moi je ne m'estime pas meilleur qu'Aristote ou que Saint-Thomas, hein. Je suis après, bon, j'ai peut-être plus de choses, mais bon, sur certains points. Et puis ensuite les autres ont falsifié, alors ça, c'est facile comme ça. Ils ont falsifié, vous voyez, donc il y a une relation, vous voyez, qui est, en fait, ce que dit Bragg, de soi l'islam ne s'intéresse pas à l'autre. La force de l'Occident, c'est qu'il est construit sur l'esprit romain et grec, qui est essentiellement réception dans la piété filiale de la supériorité hellénique pour la pensée, et puis nous du bagage hébraïque, enfin, pour la révélation. Et donc nous sommes les Romains étaient les Romains des Grecs, mais nous recevons de gens dont nous gardons les textes, dont nous commentons les textes, et dont nous savons que nous sommes inférieurs. Je ne sais pas si vous pensez que vous allez être plus fortiche qu'Homère et que Virgile, mais jusqu'ici aucun occidental ne l'a pensé. Mais ça n'a pas empêché d'avoir une dynamisme incroyable dans notre littérature, parce qu'on avait ces textes et on savait que nous, notre source était l'autre mais conservé en tant qu'autre. On étudie le grec et le latin, ça c'est très important. Et le dynamisme européen, c'est ça. C'est d'être un viaduc, si vous voulez, entre un amont, si vous voulez, qui vient de là, et puis des barbares à civiliser, si vous voulez, en sachant qu'on est toujours dépendant de gens qui sont au-dessus, quoi. Tandis qu'en islam, pas du tout, il y a un absolu, c'est nous. Et l'autre, il est, par essence, il est un trafiqueur des écritures, même les gens du livre, hein, les gens du livre sont des gens qui ont trafiqué, hein, les juifs et les chrétiens. Et puis, il est en fait tout homme né naturellement musulman. Donc toute personne qui n'est pas musulmane est un apostat. Vous voyez, je pousse un peu l'orthodoxie sunnite, hein, ou chiite. C'est tout homme, parce que c'est comme ça. C'est la réalité, c'est Mohammed le prophète de Dieu. Si tu nies ça, tu vas contre ta nature. Je vous ai raconté l'anecdote de mon ami libanais qui travaillait au Maroc, et est dans une entreprise française. Et un des ingénieurs de l'entreprise qui était agnostique lui dit, écoute, il faut quand même que les musulmans nous méprisent beaucoup, nous autres européens, machin, etc. Alors il dit, écoute, je veux pas te vexer, mais tu sais, pour un musulman, un athée, c'est un peu moins qu'un chien. Parce que c'est quelqu'un qui regarde le soleil et qui dit, il n'y a pas de soleil, ouais. Et pour un musulman, c'est ça, il y a Dieu qui a un soleil, ce qui est un peu poussé, parce que Dieu est quand même pas évident, enfin il est certain, mais pas évident. Donc là, il force un peu. Et puis Mohammed, c'est le prophète de Dieu. Vous avez le royaume de la terre, vous autres les francs, vous avez les francs à Psychari, les Touaregs à Psychari, mais nous avons le royaume du ciel. Et il y a une espèce d'auto-certitude qui a de la gueule, quoi, faut bien reconnaître. Ça a de la gueule. Donc si votre Dieu était vrai, vous y croiriez, vous feriez de l'apostolat. Vous êtes là dans vos trous. Les catholiques, vous ne bougez pas, c'est les évangélistes qui vont dans les montagnes kabyles pour filer leurs DVD. Et quand vous y allez, votre hiérarchie vous désavoue. Les évêques disent, allez pas parce que ça va faire des persécutions. Alors qu'est-ce que vous avez la vraie religion, vous? Attendez. Donc ça peut être stimulant, quoi. Donc voilà, donc on revient à l'histoire de l'attestation du Coran. Moi je veux bien, et en effet, écrit, le Coran, ça veut dire, c'est une récitation. Le Coran, c'est un truc qui est fait pour être lu. Hein. Bon. Dans cet ensemble de textes qui est fait pour être lu, il y a en effet l'affirmation d'un certain nombre de prodiges. Maintenant, il n'y a aucun recoupement. Peut-être qu'il y a eu des prodiges, moi je ne suis pas con. Mais il n'y a pas eu le même ensemble, il n'y a pas eu le même. Si vous voulez, dans le caractère de signe, ça ne pointe pas vers la même réalité. Le christianisme pointe vers l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et l'islam pointe vers la transcendance de Dieu, affirmée de façon tellement séparée, que vous voyez, il y a l'umma des gens qui l'affirment, et puis le reste n'est pas intéressant. Et donc il n'y a pas d'intérêt pour l'autre. Mais c'est très profond, hein, vous voyez, il y a des gens qui veulent faire un peu du dialogue avec les musulmans, il faut peut-être qu'ils connaissent un peu l'islam. Hein. Donc vous voyez, c'est pour ça que les signes de crédibilité, pour un bon musulman, le signe principal de crédibilité du Coran, c'est sa beauté. Donc il faut étudier pendant 5 ans l'arabe littéraire, et après on voit que c'est beau. En fait, c'est beau. Mais c'est quand même... voilà. L'Iliade aussi, c'est beau, mais tout ce qui est dedans n'est pas vrai. Il faut un ensemble de signes. Ouais. La force du catholicisme, c'est que c'est une espèce de mosaïque polarisé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs mais tout se correspond, vous voyez. Mais c'est assez fragile. Évidemment, si vous voyez qu'un aspect, vous pouvez trouver, il y a des erreurs, surtout des gens qui vivent le catholicisme. De toute façon, le chrétien est toujours inférieur à l'évangile. Tel qu'un musulman peut être à la hauteur du Coran. Je dis pas de la mystique soufie. Mais il faut bien distinguer le mystique et l'orthodoxie de base. Et vous avez les cinq piliers, vous appliquez, cinq piliers, vous faites l'aumône, le hajj, le voyage à là, vous faites ci, vous faites ce qui est marqué, les prières, bon. Et c'est bon, vous êtes musulman. Par contre, pour sortir, c'est plus difficile. Mais, donc, et c'est pour ça, je crois, une des aspects de force de l'islam, c'est son culot, son auto-affirmation, sa simplicité. Parce que c'est une sorte de... je crois que c'est Besançon qui dit ça, Alain Besançon. L'islam est une religion naturelle révélée. Enfin, c'est-à-dire, c'est simple, il y a Dieu. Mais non, mais Dieu, il n'y a pas de femme, il ne peut pas avoir un fils, c'est trop compliqué, etc. Dieu, il y a Dieu, puis c'est tout. Puis nous, on est soumis. Mais justement, ça isole une part de la vérité. Il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire, qu'Allah n'est pas Dieu. Vous voyez, je crois que ça... Moi, je ne suis pas d'accord avec certains anti-islamiques qui en arrivent à dire que Allah, c'est le mot arabe que les arabes chrétiens emploient quand ils récitent le Notre Père. Ou je vous salue Marie. C'est Dieu. C'est le créateur du monde. Mais seulement, il se trompe sur sa nature, d'accord. Enfin, pas sur tous les aspects de sa nature. Donc il y a des signes dans les diverses religions pour la part de vérité qu'il y a dans ces religions-là. Voilà. Avec le problème tout à fait spécifique de l'islam, et je crois que c'est peut-être inviter les intellectuels musulmans à accepter la réouverture de la voie de l'interprétation qui a été fermée par les califes après l'heure d'or du 9e, 10e, 11e siècle à Bagdad. Il y avait là quand même un certain dynamisme, en particulier par le fait qu'à un moment donné ils ont été dominés par des gens qui avaient plusieurs religions, enfin les Mongols là, et à la fois ils étaient chrétiens, certains étaient chamanistes, d'autres, ils ont fini par devenir musulmans. Mais à un moment donné, il y a eu 50 ans, où tout le monde a pu discuter, quoi. Parce que donc, tout le monde était à la fois plus ou moins protégé et libre, quoi. Et en tout cas, il y a eu un dynamisme, si vous voulez, c'est vrai, mathématique, astronomique, etc., considérable, et philosophique aussi. Mais après, peut-être qu'ils ont senti le danger, ils ont fermé la voie de l'interprétation, et de fait, elle n'est pas très fréquentée, quoi. Et actuellement, ce qu'on appelle l'islam fondamentaliste est quand même une voie d'auto-affirmation sans discussion. N'hésitez pas.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer.